Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Un moment pour la Terre. Et tout de suite, pour amorcer cette émission avec Martine Vallon, présidente de France Nature Environnement, on va commencer en musique avec Les Loups par Camille.
Je mène les loups, mène les loups loin de chez vous. Je mène les loups, laissez mon phare. Je mène les loups loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je mène les loups,
Et voilà, Martine Vallon, bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce rendez-vous mensuel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, comme l'auront certainement compris les auditeurs, il s'agira de parler des loups. Cet animal qui fait si peur aux enfants, mais qui fait peur aussi aux grands.
Oui, à l'heure actuelle, il semblerait même que les grands aient de plus en plus peur et qu'on passe sur une sorte de mythification d'un animal qui, tout compte fait, n'est qu'un animal parmi les autres, même s'il a de belles caractéristiques ou de terribles caractéristiques, selon le point de vue. Alors, je voulais aujourd'hui, effectivement, faire un petit point de situation par rapport à cette question, qui est une question extrêmement difficile à aborder, qui fait surgir à chaque fois de multiples réactions viscérales de part et d'autre.
Un peu la guerre entre les éleveurs les défenseurs de la nature.
Il y a cet aspect-là. Et aussi, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, en termes d'actualité, la consultation concernant le futur plan loup, puisqu'on en est au quatrième à l'heure actuelle, donc ça fait déjà de nombreuses années que sont mises en place des mesures par rapport à la protection de l'espèce. Et donc... Ce projet de plan qui va se mettre en route, enfin c'est plus qu'un projet, hein, c'est très avancé.
Alors, oui,
maintenant,
vous m'aviez parlé
était
de...
à la consultation publique,
voilà.
Durant tout le mois de janvier. Alors, pour beaucoup, plus ou moins, on découvre qu'il y avait une consultation publique, enfin le grand public, je dirais, et un certain nombre de citoyens, à mon avis, vont découvrir
une fois que c'est terminé, c'est-à-dire
maintenant
qu'on aurait pu peut-être
réagir, donner une opinion et regarder ce qu'il en était. Alors c'est vrai que là, j'ai vu que dans le Dauphiné d'hier. Donc il y avait de grands articles là-dessus. On va voir maintenant quelles ont été les réactions, quelles sont les réactions. Alors jusqu'à présent, en termes de médiatisation, il y a eu des manifestations des éleveurs, donc notamment à Lyon où les moutons ont été amenés dans les rues, enfin un grand troupeau a été amené, etc. Donc là, on assiste aussi à des prise de position extrêmement politique sur cette question-là, de la part de députés qui demandent que le loup soit sorti de la convention de la convention de Berne. Donc c'est un des axes réclamés par les agriculteurs et par certains politiques. Donc c'était voilà, l'idée était un peu de replacer les choses à la fois bon, dans le contexte général et puis d'essayer de sortir un peu de ces discussions assez hystériques qui ont lieu fréquemment. Sachant que donc à France Nature Environnement, on n'est pas très satisfait effectivement par ce nouveau plan.
On va voir ensemble donc qu'est-ce qui a évolué par rapport au plan précédent.
Par rapport au plan précédent. Alors globalement, l'ensemble de ces différents plans qui se sont mis en place sont allés vers une logique de tir de loup, d'abattage de loup comme type de solution. De plus en plus, avec le comptage, il y a tant de loups en France, donc il y a une augmentation de la population, donc il faut obtenir l'autorisation d'un tir supplémentaire. Il y a une augmentation des victimes, donc il faut obtenir un tir supplémentaire, etc. Donc c'est vrai que cette logique-là, elle est soutenue par une forme de lobby des éleveurs et des chasseurs aussi, puisque il faut un peu dissocier la question, c'est-à-dire qu'on a effectivement un impact fort au niveau des éleveurs et des bergers surtout. Et puis, on a la question aussi de la concurrence avec les chasseurs, qui est une autre histoire quand même en termes de... parce que le loup ne mange pas que des moutons, sinon il serait déjà plus là, enfin, ou il serait pas revenu. Donc, il y a aussi tout un panel d'espèces sauvages qui font partie de son alimentation, et où là, la concurrence, elle se fait avec la chasse et non pas avec l'élevage. Donc, ce qui s'est mis en place progressivement, effectivement, c'est un certain nombre de mesures. Alors aujourd'hui, on a de nouveau un assouplissement des conditions d'autorisation du tir. Ça, pour nous, c'est pas favorable, c'est pas acceptable. Et par exemple, donc l'autorisation de tir toute l'année. Alors que jusqu'à présent, on avait une période qui était la période de reproduction, qui était à ce moment-là une période protégée de 3 mois pour que effectivement l'espèce puisse se reproduire. Ce qu'il faut, parce que quand même, il faut se reposer aussi dans le contexte. Je veux dire, le loup n'a pas été inscrit dans la Convention de Berne, c'est-à-dire avec le statut d'espèce protégée. Ça n'est pas pour poser des problèmes aux éleveurs, ou ça n'est pas, enfin, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça pour monter des populations les unes contre les autres. Je veux dire, s'il a été inscrit dans la Convention de Berne, c'est parce que c'est une espèce en voie d'extinction. C'est parce que c'est une espèce qui est en disparition. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi, enfin, concernant notre position d'être humain sur une planète, je veux dire, au milieu d'autres espèces. Parce qu'en fait, la question du loup, en Asie, elle se repose, c'est le tigre ou l'éléphant. En Afrique, il y a aussi... Enfin, dans les îles, on a les requins. Enfin, aujourd'hui... la question aussi doit se poser sur... On est sur une petite planète, la population humaine grandit. S'étend sur des territoires de plus en plus vastes, c'est-à-dire qu'il n'existe plus quasiment de terres, de zones protégées, de zones à l'écart de toute activité humaine. Globalement, l'être humain va partout. Donc ça signifie aussi que toutes les espèces autres, toutes les espèces animales subissent cette pression humaine sur l'ensemble de la planète. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre responsabilité, elle est de se dire, que faisons-nous de la nature sur Terre? Que faisons-nous de la nature sauvage? Des animaux qui ont besoin aussi d'un certain espace. Et alors, est-ce qu'on estime qu'on va éradiquer de la Terre tout ce qui nous pose problème, depuis le moustique jusqu'au requin, en passant par le loup et l'éléphant ou le tigre. C'est simple, on met des zoos, on met quelques animaux à l'intérieur, voilà. Et puis on dit tout le reste impossible. Donc, je veux dire, c'est pour nous, c'est impensable de réfléchir de cette façon-là. Et donc, si on se dit ça n'est pas possible d'agir ainsi. Il faut bien trouver les moyens d'établir une certaine forme d'équilibre entre les différentes espèces qui vivent sur Terre et d'essayer de voir de quelle façon elles peuvent cohabiter. Alors, bien évidemment, le discours, il est de dit, le discours officiel, j'allais dire, le discours politiquement correct, il est de dire non, on ne veut pas l'éradication du loup, on veut juste qu'il soit pas là chez nous. Ça n'est pas possible. De façon réaliste, on peut pas dire c'est loup oui ou là c'est loup non. Je veux dire, c'est une espèce comme les autres espèces sauvages qui grandit et qui change. Enfin, il n'y a pas dans le fonctionnement des espèces naturelles et il n'y a pas de possibilité de concentration importante et illimitée. C'est-à-dire que, et le loup fonctionne de cette façon-là, il fonctionne en meute, c'est un animal voilà, qui est donc en petit groupe, avec un couple hiérarchiquement premier, oui. Et puis quelques autres autour. Lorsque la meute devient trop importante, des individus s'en vont et vont ailleurs. Lorsque la nourriture commence à manquer, même chose. Enfin, il y a une dispersion sur les territoires en fonction du fonctionnement de la meute et en fonction de la nourriture et de l'environnement et des possibilités de survie.
Ce sont des nomades, en fait.
Non, pas des nomades. Ils restent, c'est-à-dire qu'une meute reste sur son territoire. Donc, c'est 200, 300 kilomètres carrés, je crois, mm-hmm. quelque chose dans ce genre. C'est-à-dire que voilà, la meute, elle a entre 6 et 10 individus. Donc, c'est un petit groupe social qui a un territoire donné et il reste là-dessus. Lorsqu'il y a une augmentation, c'est-à-dire que les louves mettent bas, les petits grandissent. Et puis, quand le jeune adulte commence à arriver en concurrence avec le chef loup, enfin, parce que c'est un peu là aussi comme ça que ça se fonctionne, il s'en va. Il s'en va et il va chercher éventuellement une compagne pour créer un couple et un autre territoire pour vivre. Donc ça veut dire on fantasme quand on imagine que une population sur un endroit donné va se multiplier. On va pas sur le département être envahi par les loups comme ça. Ils se chasseront d'eux-mêmes. Sauf que pour que ce système-là fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un équilibre qui soit conservé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on intervient, notamment en détruisant une bête, bien évidemment, ça va entraîner un déséquilibre à l'intérieur de la meute selon qui est tué. Il va y avoir finalement plus de difficultés ou plus de dégâts parce qu'il va y avoir des concurrences qui se mettent en place et la destruction comme ça, de façon ponctuelle sans aucune stratégie, ne permet pas une bonne régulation de l'espèce et ne permet pas une diminution de la prédation. Par contre, la protection des troupeaux, et là, dans ce nouveau plan, il y a un projet de mise en place d'un observatoire de l'efficacité des mesures de protection. Ça, c'est important, parce qu'on ne sait pas toujours très bien, aujourd'hui encore, comment fonctionnent les mesures de protection, si elles fonctionnent bien, quelles sont les meilleures à mettre en place en fonction de l'environnement, en fonction du système local, etc. Donc tout ça, l'observatoire de l'efficacité des mesures de protection, ça c'est un bon point de ce nouveau plan. Deuxième idée qui est intéressante, c'est la mise en place de ce qui est appelé un réseau chien de protection. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, parmi les outils de protection dont disposent les éleveurs, il y a donc ces chiens patous. Or, on sait que ça pose des problèmes.
Aux promeneurs.
Voilà, par exemple. Aux éleveurs aussi. C'est-à-dire que les chiens ne sont pas toujours... ils n'ont pas toujours le profil qu'ils devraient avoir. C'est aussi un élément qui est important à analyser un peu et à essayer éventuellement de corriger. Un chien patou ne se dresse pas comme un autre chien, ne s'élève pas comme un autre chien. Donc, il doit pas être élevé au biberon, il doit pas être apprivoisé, il doit rester à l'intérieur du troupeau. Et ça n'est pas un chien de compagnie, ça n'est pas un chien de garde, ça n'est pas un chien de berger traditionnel qui travaille avec le berger. Et ça n'est pas non plus un chien de chasse.
Alors, c'est un chien de quoi ?
Donc, c'est vraiment un animal spécifique. Et donc, il est à la fois nécessaire d'avoir le bon produit, c'est-à-dire d'avoir un chien qui provient d'un élevage où ils sont sélectionnés, où ils sont surveillés, etc. Et ensuite, de savoir comment l'utiliser, comment il doit être au milieu du troupeau et comment l'éleveur doit se comporter avec lui, quelles sont les formes de dressage importantes. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont fait de réels efforts en termes de protection, qui ont acheté des chiens patous, qui se sont retrouvés avec beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, c'était des animaux qui n'avaient pas été imprégnés et élevés et dressés de façon correcte. Donc, ça veut dire que effectivement, certains quittent les troupeaux et vont partir chasser les sangliers. Évidemment,
c'est pas ce qu'ils souhaitaient.
C'est pas l'objectif. D'autres, en effet, deviennent agressifs et s'attaquent à tout ce qui passe et ne restent pas à l'intérieur du troupeau. Enfin bon, il y a plein d'éléments comme ça qui sont donc. Travailler un peu plus sur cette question-là, effectivement, peut être un élément qui va faire évoluer les choses. De nouvelles recherches sur les mesures de protection. Aujourd'hui, sur l'ensemble des financements qui sont donnés sur ces questions de plan loup, ils vont essentiellement sur des indemnisations des bêtes tuées, sur les achats de protection, de clôture, etc. Sur les aides bergers, l'aide au salaire. On ne fait pas ou peu de recherches sur quelles nouvelles mesures pourrait-on développer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des technologies différentes ? Est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre de choses ? Bon, donc ça, c'est quelque chose qui peut être important dans un but de trouver des solutions et d'essayer de répondre à la situation. Alors, par ailleurs, c'est vrai aussi, le meilleur moyen de protection, c'est quand même encore la présence humaine aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, laisser les troupeaux sans présence permanente, c'est certain qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en place une protection dans ce cadre-là. Alors bon, voilà, l'idée à ce niveau-là, c'est aussi la mise en place d'une brigade de bergers mobiles, donc qui peut-être viendrait en appui à certains moments dans des secteurs plus... et puis des gens qui seraient formés aussi, parce que parmi les difficultés à l'heure actuelle, il y a quand même aussi le fait que les bergers ou les aides-bergers n'ont pas forcément de formation spécifique ou n'ont pas forcément de connaissances spécifiques sur ce domaine-là. C'est-à-dire que... Et donc le fantasme de terreur qui est orchestré, qui est développé, fait que, aujourd'hui, on se dit « Ah, je vais me retrouver face à un loup, qu'est-ce que je vais faire, etc. Je peux être attaqué. » Bon, calmons-nous un petit peu là aussi. Je veux dire, à l'heure actuelle, les promeneurs et les ramasseurs de champignons ont plus souvent eu des soucis...
Avec les chasseurs qu'avec les...
Voilà. Ouais. Donc, il faut aussi, à certains moments, un petit peu reprendre sa raison, même si, bon... Oui,
il y a quand même une réalité,
il y a des situations troupeaux, difficiles, il y a des troupeaux qui sont attaqués, c'est certain. Alors, c'est certain aussi que il y a probablement des zones sur lesquelles il n'y a pas grand-chose en termes de protection qui puisse se faire. Ça, c'est parce que, en effet, le loup, c'est un chasseur, c'est un animal qui va arriver à se cacher, En effet, à un certain moment, dans des endroits très boisés, très embuissonnés, la surveillance et la protection est extrêmement difficile à mettre en place. Là-dessus, peut-être que il pourrait y avoir aussi... Bon, on sait que sur certains secteurs, il y a très peu d'attaques. Et ce n'est pas forcément les secteurs les plus faciles pour le loup. C'est-à-dire qu'il y a... Alors
quels sont ces endroits,
ouais. Étudions de plus près, peut-être. Enfin, si on mettait en place des éléments de rencontre avec... nous, à France Nature Environnement, on essaye le plus possible d'avoir... des visions de terrain, d'avoir des rencontres qui nous permettent d'aborder des points de vue différents et d'essayer à partir de là de réfléchir ensemble et de voir d'améliorer la connaissance qu'on peut avoir et donc d'essayer de trouver des réponses qui soient des réponses communes ou satisfaisantes. Je crois que peut-être à certains moments, il y aurait-il aussi quelque chose à étudier qui est de l'ordre de la régulation naturelle, c'est-à-dire de l'équilibre qui peut se mettre en place sur certaines zones. On voit par exemple que sur le 04, durant l'année 2013 ou 2014, il y a eu une diminution de la prédation. D'où peut provenir cette diminution de la prédation? Je dirais on peut poser des hypothèses. Première hypothèse, beaucoup de braconnage et des tirs de loups dont on n'a pas eu connaissance et donc une diminution des populations de loups, c'est une possibilité. Deuxième hypothèse, une forme d'équilibre de la population de loups, d'équilibre des meutes, qui effectivement est d'adaptation à la situation, qui fait que mis à part dans les périodes où il y a le système de l'apprentissage pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, souvent à l'automne, où les parents apprennent aux jeunes à chasser. Et donc là, il y a en général beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que, bon, c'est là où il peut y avoir l'affolement du prédateur qui tue plus que prévu, enfin, etc. Sinon, globalement, le loup tue pour manger. Donc, ça veut dire que s'il a tué un animal, qu'on ne l'a pas dérangé, qu'il a mangé son animal, il a plus faim, il s'en va, il va pas continuer à détruire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, peut-être peut-il y avoir, comme ça se passe dans la nature sauvage, une forme de diminution de la prédation parce qu'il ne va pas prélever plus que ce qui lui est nécessaire. Et si la meute est établie dans un certain secteur et qu'elle fonctionne tranquillement, normalement, les jeunes partent, le nombre de loups n'augmente pas. On reste sur une meute entre 6 et 10 et une forme de d'équilibre. Bon, en plus, on sait qu'ils préfèrent en termes de nourriture, quand même. Enfin, les analyses de restes et de fesses montrent aussi que dans la nourriture du loup, il y a des animaux sauvages. Je veux dire, ils ne mangent pas que des moutons. Et donc, et souvent, ils préfèrent les chevreuils, les biches, les... les sangliers sont sans doute un peu moins, semble-t-il. Bon, peut-être c'est plus difficile à chasser. Mais voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il y a, peut-être des voies d'équilibre à trouver qui permettraient effectivement de faire face à notre obligation. Parce que c'est ça aussi, le loup est dans la Convention de Berne, espèce protégée parce qu'il était en voie de disparition. Le loup est une espèce qui préexiste. Je veux dire, c'est pas, il n'est pas arrivé là. Il est en Europe depuis des millions d'années. Je veux dire, donc c'est oui, de à peu près 2 millions d'années. Hein. Donc c'est un territoire qui est le sien aussi. Donc à partir de là, la Convention de Berne intervient à partir du moment où une espèce est en voie d'extinction. Et donc si une espèce est en voie d'extinction, c'est de notre responsabilité humaine de savoir ce qu'on veut faire vis-à-vis de ça. Et donc sur le loup, notre responsabilité, elle est énorme puisque son territoire européen, c'est là son lieu de vie. Donc on ne peut pas le prendre, aller le mettre au milieu du Sahara et lui dire « débrouille-toi là-bas ». C'est ici qu'il nous faut, nous, trouver les moyens que cette forme de la nature, qui est une forme sauvage, puisse continuer à exister en Europe. Ou alors, effectivement, on peut se dire « bon, ben voilà, l'Europe, ça doit être bétonné, goudronné ». Organisé, et puis on ne veut rien, plus rien de ce qui est sauvage. Et donc on ira chercher la nature sauvage ailleurs, où on aura détruit les humains, comme ça on pourra faire un équilibre.
Donc, alors que dit cette convention, mis à part donc, que plus d'abattage est autorisé ?
Le plan, alors oui, donc les tirs toute l'année... le fait alors que les certaines autorisations de tir ne seraient pas conditionnées à la mise en place effective des moyens de protection. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en gros, le contrat, il est vous mettez en place des moyens de protection sur le troupeau et on indemnise les pertes et les dégâts pour essayer de compenser la perte de revenus. Alors ça, dirons-nous, c'est le contrat comptable. Hein, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour prendre en compte tout un aspect qui n'est pas de l'ordre de la trésorerie pour l'éleveur. Hein, je veux dire, il faut quand même voir aussi que... le troupeau, pour un berger, ça n'est pas que son revenu. Donc on ne choisit pas ce métier par hasard, donc ça veut dire qu'il y a tout autre chose à prendre en compte. Mais sur cet aspect-là, c'est quand même un contrat entre la société qui dit nous sommes responsables de la protection de cette espèce qui est en voie de disparition, nous sommes responsables de sa préservation, donc nous faisons un effort. Si vous, vous faites un effort de protection, nous faisons un effort et nous venons indemniser les pertes. Or, aujourd'hui, il semblerait que on veuille laisser tomber la mise en place, donc le conditionnement des indemnités. Ça veut dire que il y a des voix extrêmes à ce niveau-là qui disent moi, je ne veux pas changer mes méthodes de conduite de troupeau, je veux pas changer, j'ai pas à faire un effort. Je veux être indemnisé, mais je veux absolument rien changer dans mon mode de fonctionnement. Donc ça, c'est pour nous, c'est pas acceptable. Je veux dire, il y a une réalité où tout le monde doit essayer de faire un effort et de prendre en compte cette nécessité. Alors, donc, même chose, donc l'état de protection ne serait plus exigé. Ensuite, les tirs aussi. Donc, là aussi, il y a un déplacement, c'est-à-dire qu'on focalise sur les tirs de prélèvement et on laisse un peu trop tomber ce qui est appelé les tirs d'effarouchement. C'est-à-dire que le tir qui est fait près du troupeau contre un loup qui s'approche ou dont on sent qu'il n'est pas loin... Et les tirs qui sont faits donc de façon non létale sont extrêmement pédagogiques pour le loup, c'est-à-dire que il se rend compte que là, s'il s'approche du troupeau, il y a un fusil en face et que ça a des conséquences pour lui. Tandis que ce qui est tirs de prélèvement qui sont autorisés à l'heure actuelle et donc notamment autorisés pour les chasseurs qui sont en cours de battue au sanglier ou autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dire, bon, le chasseur aura le droit de tirer. Et donc, ce tir-là, il n'a aucun effet pédagogique. Et en termes de prélèvement par rapport à une meute, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est pas un animal choisi en fonction de ses caractéristiques. Enfin, là aussi, on peut se dire que plus on éliminera de bêtes qui s'approchent des troupeaux et plus on aura un impact sur le fonctionnement général de la population de loups, sur le fonctionnement général des meutes, et que donc ça permettra effectivement d'être plus efficace. Donc aujourd'hui, enfin, il y a un renforcement de cette idée que la solution, c'est le tir. La solution, c'est augmenter le nombre de loups tués. La solution, c'est, on a un plafond qui est donné de 10%. Si on a atteint au mois de juillet ce plafond de 10%, on donnera une autorisation pour monter encore de 2%. Ça ne résoudra rien, sauf à vouloir éradiquer le loup. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, si la stratégie qui est derrière est celle de la destruction de l'espèce, augmenter le nombre de tirs, forcément, là, ça aura beaucoup d'impact et ça fera son effet.
Donc, pour revenir à ce plan de convention pour le loup, qui a été consultable donc au public durant tout le mois de janvier, vous, France Nature Environnement, est-ce que vous avez
On a réagi, on a fait, bien sûr, on a bien entendu, oui, on a bon. France Nature Environnement, mais aussi toutes les autres associations de protection de l'environnement qui sont qui ont alerté leurs membres et on a réagi, on a fait une contribution effectivement
avec des propositions,
avec une analyse du plan et les points sur lesquels on était favorable ou sur lesquels on pensait que ça serait pas judicieux et que c'était même inutile. Bon, cet axe de tuer un certain nombre d'animaux, ça ne change pas le fond du problème, sauf, je disais, sauf si on veut arriver à terme à l'éradication. Parce qu'aujourd'hui aussi, en France, alors on n'est pas tout à fait... tout à fait d'accord sur les chiffres, bien sûr, parce que il est très difficile d'arriver à avoir un état des lieux. Mais globalement, on atteindrait 500 individus, un peu plus, un peu moins, selon... on est entre 3 et 500. On est à peu près à 300-350. Le seuil de 500 serait celui qu'on estime à l'heure actuelle être la limite pour la préservation de l'espèce. Beaucoup d'experts pensent qu'il faudrait plus. Donc 500 loups, c'est pas énorme sur l'échelle du territoire français. Combien sommes-nous d'êtres humains sur la France ? Et on dit, 500 loups, ça serait le seuil à atteindre pour juste la survie de l'espèce. Certains experts ne sont pas d'accord et disent qu'il faut, plus que ça. Bref. Cela dit, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des loups. En Espagne, je crois qu'il y en a à peu près 2000. En Italie, environ 1000. Il y a des troupeaux aussi. Et apparemment, il n'y a pas forcément plus de problèmes non plus que chez nous. Donc là aussi, ce serait peut-être... à réfléchir et à voir un peu aussi comment améliorer. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est tout va dépendre après de est-ce que ce projet-là va être mis en place et comment ensuite il va être décliné et comment ensuite il va être suivi ou pas suivi. La mise en place de l'observatoire, est-ce qu'elle va avoir lieu effectivement ? Est-ce qu'il va y avoir des moyens donnés ou pas ? De la même façon, sur l'amélioration des connaissances ou bien le réseau chien de protection. Tout dépend aussi, après, comment on va gérer à la fois pratiquement et financièrement ces différentes lignes. Et comment on va pouvoir, elles vont pouvoir être utilisées. On n'est pas satisfait. Bien sûr, ça va être dans ces cas-là, personne n'est jamais satisfait. Mais à un certain moment, il y a aussi une forme de courage qui est nécessaire et que l'État doit avoir pour dire voilà. La direction, elle est par là. On a une responsabilité, on a des engagements vis-à-vis de l'Europe aussi, parce que, il y a ces financements, ils viennent de l'Europe aussi pour aider à ça. Donc on s'engage en contrepartie à protéger l'espèce. Il faut quand même être clair là-dessus aussi. Et donc, un des derniers points, c'est aussi ce qui est suggéré de la possibilité d'un déclassement de l'espèce. Parce que, effectivement, c'est ce qui est demandé par certains. Et donc, si on le sortait, donc le loup de la Convention de Berne, il deviendrait une espèce chassable. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, par exemple, les indemnisations ne se justifieraient absolument plus et seraient supprimées, puisque toutes les indemnités qui sont données et toutes les aides qui sont apportées le sont parce qu'il s'agit d'une espèce protégée. Si ça n'est plus une espèce protégée, il n'y a plus aucune raison que l'Europe aide au financement. Alors, bon, il y aurait encore beaucoup à dire, je crois que... Hélas.
On va conclure. Oui. Il nous reste quelques minutes.
Alors, juste quelques minutes. Alors, pour signaler deux événements dans le mois à venir. Et l'un très proche. Donc, samedi 3 février à oui. 18h30, il y a au cinématographe de Château-Arnoux un film sur l'intelligence des arbres. Donc ça, c'est encore un autre aspect de la biodiversité et qui est organisé, je crois, par la Sistud, une association de protection de l'environnement qui est aussi une de nos adhérentes départementales. Donc ça, et puis nous organisons donc à France Nature Environnement, alors là c'est un peu plus pour un public particulier, c'est pas grand public, c'est une journée technique sur la prise en compte de l'eau dans les documents d'urbanisme, et c'est une journée de formation à destination des élus ou des techniciens qui ont en charge les questions d'urbanisme et les documents à mettre en place, etc. Donc tout ça en lien avec les évolutions de la loi, notamment la loi GEMAPI et les nouvelles compétences qui arrivent et les nouveaux textes là-dessus. Donc ça, ce sera le 9
février, ou ça ?
Voilà, à la mairie du Brusquet. Salle du conseil, donc là c'est plus
pour les
publics, voilà. Mais bon, c'est important aujourd'hui cet aspect-là.
Donc par rapport à l'eau ?
Par rapport à l'eau, la prise en compte de l'eau, donc qualité, etc., protection de l'eau par rapport pour les documents d'urbanisme, assainissement et potabilisation aussi. Voilà. Bon.
Ben voilà.
Oui. Merci beaucoup.
Vous avez envie de nous en dire encore ?
Eh bien, mais nous reviendrons peut-être sur cette question du loup, je pense. Et bon, j'ai pas eu. Donc là, on a été beaucoup bousculés ces temps derniers. Et l'idée était peut-être de mettre en place peut-être un temps de réflexion et discussion là-dessus à plusieurs voix. Donc on verra comment organiser ça.
Martine Vallon, merci.
Et
on
merci
se retrouve
à vous.
Le mois prochain. Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, de l'eau sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De l'eau sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De l'eau sont entrés dans Paris.